autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Guillaume Ploquin à la réalisation pour nous interroger sur les ressources minérales. Depuis l'âge de pierre, en passant par la ruée vers l'or, le diamant, le nickel ou l'uranium et aujourd'hui les terres rares, celles-ci sont indissociablement liées, pour le meilleur comme pour le pire, à l'histoire et à l'évolution de notre humanité. Moteur de notre industrialisation, source de profits et de conflits, leur exploitation et leur traitement soulèvent de plus en plus de questions environnementales, sociétales, économiques, géopolitiques. Pour combien de temps dispose-t-on encore de ressources minérales accessibles en termes acceptables pour notre planète et tous ses habitants? Voilà ce que nous allons nous demander avec notre invité, le professeur Georges Callas, titulaire cette année de la chaire Développement durable, environnement et société au Collège de France. Autour de la question, quelles ressources minérales pour demain? Bienvenue. Bonjour Georges Callas.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes professeur à l'Institut de Minéralogie, Physique des Matériaux et Cosmochimie de l'Université Pierre et Marie Curie à Paris, membre de l'Institut Universitaire de France, spécialiste des minéraux et des verres, professeur invité cette année donc au Collège de France sur la chaire Développement durable, environnement et société. On peut d'ailleurs suivre en ligne votre leçon inaugurale et vos cours. Oui. Vous vous êtes interrogé, Georges Callas, à la fois sur la durabilité de ces ressources minérales, sur l'évolution socio-économique associée au partage des ressources minières, grande question, mais aussi sur leurs impacts environnementaux. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a une prise de conscience, alors à la fois de l'importance pour nous de ces ressources, mais aussi des mutations nécessaires pour continuer à les exploiter durablement et équitablement?
Oui, alors effectivement, ces ressources minérales sont en général, on y fait peu attention en fait, parce qu'on les voit pourtant dans notre vie tous les jours. Ce sont les métaux, ce sont les verres, ce sont les céramiques, mais on les retrouve aussi dans les feuilles de papier, on les retrouve dans tous les plastiques qui nous environnent. Donc sous une forme ou sous une autre, on est en permanence entouré de minéraux. Mais c'est très modeste, c'est en général ça passe inaperçu et on ne s'en rend pas compte. Alors ces matières premières minérales, pendant très longtemps, on pensait que elles seraient d'abord inépuisables, qu'elles étaient pas chères, on les payait très très peu cher et donc on n'y faisait vraiment pas attention non plus en termes économiques. Avec l'évolution de l'humanité, avec notamment la décolonisation, ce sont des concepts qui ont très très fortement évolué, et les besoins croissants de l'humanité, à la fois liés à la démographie et à l'augmentation du niveau de vie, font qu'on a un besoin de plus en plus important de ces matières premières, qui du coup sont une source de revenus possibles pour des sociétés privées, pour des États, pour des populations. Des peuples premiers, par exemple, donc on voit très bien que ça peut générer des conflits, ça peut générer des règles, en tout cas à définir. Et effectivement, on est devant un domaine économique qui est en pleine révolution, qui évolue de façon extrêmement vite, avec des grandes interrogations, effectivement, sur l'avenir.
Alors, autour de la question, quelles ressources minérales pour demain? Je propose de commencer par quelques pistes de réflexion sonore, oui, avec le mix chronologique et minéralogique de Guillaume Ploquin, qui s'est évidemment inspiré de votre leçon inaugurale au Collège de France, introduite par le professeur et administrateur du Collège, le prix Nobel Serge Haroche.
Depuis les temps les plus reculés, les sociétés humaines ont basé leur développement sur l'exploitation des ressources minérales de la Terre. Ce lien étroit entre civilisation et utilisation des minéraux s'est d'ailleurs traduit par la dénomination des différentes époques de l'humanité.
C'est un sujet brûlant, hein, surtout dans des environnements où les questions techniques et technologiques restent fortement posées parce que non maîtrisées.
En Chine, vous trouvez beaucoup de gens, même de simples paysans, qui pour gagner un peu d'argent exploitent les terres rares de façon locale et absolument pas scientifique.
La question de la durabilité de ces ressources, comment se sont formés ces éléments? Sous quelle forme dérivée les trouve-t-on? Comment les récupérer après usage et les recycler?
Franchement, il y a des produits chimiques qui sont vraiment utilisés, pas des opères. Le cyanure, qu'on parle de cyanure, du mercure, Ça nuit sur l'environnement et sur la santé.
Les sols congolais renferment plus de diamants que n'importe quelle autre terre dans le monde.
Mon fils a commencé à travailler dans les mines parce que nous manquions d'argent. Travailler dans les mines n'est pas une bonne façon de gagner sa vie. Il y a beaucoup de risques et de dangers et ils nous font beaucoup souffrir.
Peut-on exploiter ces ressources dans des conditions acceptables pour ces populations et leur permettre d'en profiter pour leur développement économique sans détruire leur mode de vie?
Au cœur du Pacifique, en Nouvelle-Calédonie, le sous-sol de l'île regorge d'un minerai indispensable à la croissance mondiale, le nickel. Pour financer leur futur état, les Kanaks ouvrent des mines, construisent des usines. Ils jouent leur destin sur le marché des matières premières.
Qu'il s'agisse des entreprises privées et ou publiques, qu'il s'agisse des associations, qu'il y ait un minimum de transparence sur ce qu'il y a lieu de faire, sur comment faire, etc., etc.
Nul n'est plus qualifié que vous, Georges Callas, pour nous en parler dans le cadre des enseignements de la chaire de développement durable.
Georges Callas, on va donc user de vos lumières pour cerner cet immense domaine des ressources minérales exploitées au fond depuis les origines par les hommes.
Hein. Oui, tout à fait. Oui, l'âge de pierre. Oui, on utilisait déjà des silex en Europe, des obsidiennes, enfin des verres volcaniques, disons, autour de la Méditerranée ou sur le continent américain depuis
c'est
longtemps.
Au fond aussi dans notre inconscient collectif, Guillaume, dans le mix, a rajouté les sept nains de Blanche-Neige. Oui. Ils allaient dans la lune. Hein.
Oui. C'est une musique. Que je trouve, le mythe de Blanche-Neige et des sept nains fait référence à des mines anciennes qui ont duré pendant plusieurs siècles en Europe centrale, hein, et qui nous ont effectivement fortement marqués depuis. Donc ces nains, on pensait effectivement qu'ils habitaient dans les mines, et donc c'était jeter des malédictions. Il faut savoir que être dans une mine, c'est un environnement très spécial. On voit déjà même à Paris les catacombes, l'attrait pour les catacombes, pour les souterrains, et pourtant on n'est qu'à 10 mètres, 15 mètres de profondeur. Donc quand vous êtes à plusieurs centaines de mètres de profondeur, voire plus. C'est une ambiance qui est extrêmement spéciale et il faut réaliser que, sans être aussi profond que ça, les mines du Moyen-Âge, vous n'aviez pas d'éclairage, il n'y avait pas de ventilation, et il faut voir quand même l'univers dans lequel on se trouvait. Donc il y avait cet univers un peu fantastique.
Qui ont généré les sept nains, qui ont généré d'autres choses dans notre inconscient collectif. Alors, il faut quand même faire la différence. Quand on parle des ressources minérales, il y a des ressources telles quelles, des gisements, et ensuite les hommes les ont exploitées et en ont fait des mines, c'est ça?
Voilà, alors il y a deux types de ressources minérales, pour faire très brièvement. Il y a d'une part les minerais, à partir desquels on va extraire les métaux, comme le fer, l'aluminium, etc., le cuivre. Et puis d'autre part, il y a les minéraux industriels, comme le sable, comme les argiles de haute qualité, comme par exemple les kaolins, ça peut être aussi la calcite, le carbonate de calcium. Et ces minéraux vont souvent être utilisés soit comme matière première, donc on a par exemple les fonds pour faire du verre, donc c'est la base de toute l'industrie verrière ou des céramiques, hein. Et d'autre part, on va les utiliser tels quels, comme par exemple les kaolins, qui sont des argiles plats, des cristallites plats en plan d'argile que l'on utilise pour coucher sur le papier de façon à définir une surface plane sur le papier.
Donc c'est grâce aux kaolins qu'on peut écrire sur le feuille de papier.
Absolument, oui, sinon ce serait un buvard.
Ce sont vraiment ces ressources minérales, ça a été le moteur de toute l'activité industrielle de l'homme, et ça ne cesse de l'être aujourd'hui.
Oui.
Ça l'est de plus en plus.
Ça l'est de plus en plus, effectivement, parce que maintenant on utilise, autrefois on utilisait très peu de métaux. Maintenant on utilise, quand on a un téléphone portable, vous utilisez plus de 35 métaux différents. Donc chacun, évidemment, c'est pas mélangé de façon aléatoire, ils interviennent dans des composants très précis, parfois il y a juste un composant d'une toute petite taille, mais ils sont indispensables pour ces nouvelles technologies. Et on en reparlera peut-être à la fin, c'est évidemment le problème majeur du recyclage de ce type de matériel très sophistiqué, à cause du mélange de tous ces éléments.
Oui, parce qu'aujourd'hui, il faut recycler, parce que d'abord, ces ressources, elles sont inépuisables. Rien n'est inépuisable sur Terre.
Le débat est compliqué. Le débat, comme vous l'imaginez, est très polémique. Nous ne sommes pas dans le domaine des hydrocarbures. C'est-à-dire que la planète Terre est constituée d'éléments chimiques. Vu la taille de la planète Terre, on a tous les éléments chimiques qu'il faut. Simplement qu'il faut pouvoir les extraire.
On n'est pas dans le cas du pétrole, il y en a, mais il faut les extraire.
Voilà, donc il faudra les extraire en termes acceptables au niveau de l'énergie, qui est probablement le paramètre limitant, le plus limitant, acceptable en termes d'eau, il faut de l'eau pour extraire le minerai, pour traiter le minerai, en termes économiques, en termes environnementaux, en termes sociétaux, tout simplement parce que plus le temps passe et plus les minerais qu'on exploite, donc là je parle plutôt des minerais métalliques, sur lesquels c'est surtout étudié, plus les minerais sont dilués, c'est-à-dire plus ils sont pauvres, donc plus il faut, pour la même quantité de métal, extraire une quantité croissante de roches.
Donc il y a ça, de plus en plus de coûts, voilà, au fond, à la fois environnemental, économique et humain, bien
et
sûr.
Et humain et environnementaux, enfin oui. Voilà.
Vous avez eu envie, Georges Callas, de nous faire entendre la chanson traditionnelle des mineurs des Asturies. C'est une chanson qui avait d'ailleurs été diffusée aux 33 mineurs chiliens, oui, qui avaient été piégés, c'était au fond de leur mine, en 2010, hein, du 5 tout août au 13 octobre, oui, 2010. On va écouter tout de suite cette chanson interprétée par Nouberou, avec au tout début donc les messages qui étaient à destination de ces mineurs chiliens.
Desde ahora podrán no solo hablar, sino verles por videoconferencia. Será algo más de un minuto al día.
Santa Bárbara bendita.
Hommage aux mineurs, 16 mineurs morts dans cet accident mortel. C'est cette chanson traditionnelle des mineurs asturiens, interprétée par Nouberou sur RFI. Nous sommes en compagnie du professeur Georges Callas, spécialiste des minéraux, professeur invité cette année au Collège de France sur la chaire développement durable, environnement et société. Pour combien de temps dispose-t-on encore de ces ressources minérales qui soient accessibles en des termes acceptables pour notre planète et pour tous ses habitants? C'est la question que nous nous posons et que vous pose tout de suite l'ethnologue Romain Simnel.
La question, ce serait véritablement comment arriver à gérer conservation donc des parcs naturels, de la biodiversité, des écosystèmes et justement gestion de ces ressources minières qui sont souvent au même endroit. Je pense au parc des Virunga, notamment au Congo, mais d'autres. Moi, j'ai été en Angola invité pour faire une conférence sur la biodiversité. J'ai été directement saisi par tous ces entrepreneurs miniers qui étaient là. Et voilà, la question, c'est véritablement comment arriver à articuler cette pollution que génèrent ces ressources minières et en même temps, donc, la protection de l'environnement, étant donné que très souvent, les deux coïncident, se superposent au même endroit.
Georges Callas, les deux se superposent au même endroit, souvent dans
ça
le monde.
Ça peut arriver. C'est pour ça que j'avais choisi comme photographie emblématique du cours et qui est sur le site de RFI, justement. Donc, une photographie d'une exploitation de nickel en Nouvelle-Calédonie.
Magnifique photo, nickel rouge en Nouvelle-Calédonie, mais c'est pas pour
le minerai nickel qui est rouge, derrière lequel on voit le lagon, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, derrière lequel vous avez le récif frangeant et ensuite l'océan ouvert. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'effectivement, vous allez exploiter une ressource, donc du coup en détruisant la partie superficielle, donc la biosphère, donc correspondant à ce gisement. Si vous ne l'avez pas anticipé, évidemment, ça peut être assez dramatique. Si vous n'endiguez pas les impacts environnementaux, ça peut avoir des conséquences très graves. Donc, ce qui se passe, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'effectivement, vous mettez autour de la table trois types d'interlocuteurs. Vous mettez d'une part l'industrie minière, donc au sens large, c'est-à-dire à la fois les extracteurs, les transformateurs. Vous mettez aussi les instances locales et territoriales, qui ont donc le pouvoir sur la terre et sur la décision locale, et puis vous mettez la puissance régalienne, qui est donc la France hexagonale, qui va être le troisième pied du tripode, en fait. Hein. Et on va effectivement réfléchir comment préserver au mieux l'environnement, comment anticiper. Donc ça, les mineurs l'avaient déjà fait depuis quelques années en Nouvelle-Calédonie, mais c'est pas ça qu'il faut, j'ai dit, il faut l'anticiper. Ça fait des années et par exemple, ils ont des serres dans lesquelles ils ont des espèces endémiques qui sont élevées, de façon à pouvoir replanter des arbres qui n'ont pas simplement 15 jours, des arbres qui ont une certaine ancienneté, évidemment, s'ils n'ont pas du tout la taille des arbres qui ont été arrachés pendant l'exploitation. Mais l'idée, c'est quand même de replanter au mieux avec des espèces endémiques, de façon à protéger la biodiversité. L'idée, c'est aussi de préserver des corridors pour les migrations zoologiques. Donc il y a toute une observation, il y a déjà toute une phase de recherche au niveau écologique, écosystémique.
Avant, en fait, oui. En phase préalable.
Tout à fait.
En lien avec les populations qui habitent sur place, surtout pour la Nouvelle-Calédonie, ce sont les Kanaks qui habitent sur place.
Pour la province nord, oui.
Voilà,
oui.
Et ce sont souvent sur la terre des peuples dits premiers ou des peuples autochtones qui habitent sur ces terres sur lesquelles
absolument,
il y a toutes ces ressources
absolument. Donc là,
minérales.
Il y a un autre exemple qui me vient à l'esprit aussi, c'est le Nord-Québec. Le Nord-Québec dans lequel il y a des ressources qui sont extrêmement importantes et dans lesquelles, justement, là aussi, il y a un dialogue qui s'installe maintenant, enfin, qui s'installe depuis plusieurs années avec les habitants, les Inuits qui habitent effectivement ces régions-là.
Donc il s'agit de protéger l'environnement, la nature, mais aussi de faire ça dans des conditions acceptables pour les habitants.
C'est-à-dire
que de toute façon, on en a besoin de ces ressources. Il y a des raisons économiques qui font qu'on en a besoin et qu'on va les extraire. Donc comment faire, quoi, au mieux, au moins mal, en lien, et que les habitants sur place en profitent, c'est ça?
Voilà, donc il faut bien redistribuer justement les royalties, et ça a été justement une des annonces au Collège de France.
Au Collège international que vous venez de diriger.
Exactement, donc qui était jeudi et vendredi dernier, où justement le directeur général du service géologique mexicain nous expliquait comment la loi mexicaine changeait, et que la distribution de la richesse se faisait maintenant majoritairement donc en faveur des municipalités, et donc vraiment des populations locales autour de l'exploitation, ensuite au niveau de la province et ensuite au niveau de l'État central.
Parce qu'autrement, avant, ou dans d'autres pays du monde, pour ne pas les citer, notamment beaucoup au sud, la manne en fait générée par ces ressources minérales, elle arrive d'abord au gouvernement, c'est ça, et ensuite elle descend pas.
Elle n'arrive qu'au gouvernement, effectivement, parce qu'on ne peut pas non plus se mêler, je dirais, c'est pas une entreprise, c'est pas un pays étranger, de se mêler de ce qui se passe à l'intérieur d'un pays. Donc le seul interlocuteur, c'est effectivement le gouvernement en place, qui est la structure légale et qui aura ensuite à distribuer cette manne. Le problème, c'est que, et c'est souvent ce qui est critiqué avec l'industrie minière, c'est que vous allez assez rapidement avoir des flux financiers extrêmement importants.
Générés par ces industries
oui,
minières.
Oui, voilà, et avec une administration, avec une structure, quelle qu'elle soit, qui n'est pas préparée à avoir cet influx financier. Ça se prépare, avoir un flux financier important. Je ne suis pas du tout financier, hein, mais je...
Non, vous n'êtes pas du tout financier, vous êtes géologue, spécialiste de minéraux. C'est quand même assez étonnant, parce que finalement, vous êtes dans une spécialité où, à la fois au Collège de France, vous avez aussi parlé de la composition de ces minéraux, comment ils sont faits, on y reviendra d'ailleurs pour savoir comment on peut les recycler, mais vous avez de la composition de ces minéraux, où on les trouve, vous allez les chercher, et en même temps, comment peut-on les exploiter, comment les exploiter au mieux, et comment réunir autour de la table tous ceux qui pourraient en bénéficier aussi.
Voilà, c'est ça, oui, tout à fait.
Donc il faut quoi, tenir tous les bouts de la chaîne, de la pierre à l'homme, en passant évidemment par l'environnement, question cruciale aujourd'hui.
Il faut se triomphe, oui, c'est une question cruciale. Alors c'est l'environnement qui peut être la biodiversité, c'est l'environnement dans l'empreinte carbone, c'est l'environnement dans l'utilisation de l'eau. L'empreinte carbone, tout simplement parce que la réflexion qui a lieu actuellement par exemple sur la transition énergétique, passer sur de nouvelles formes de génération d'énergie, il a bien été rappelé au colloque justement que construire une éolienne de nouvelle génération, c'est une tonne de terres rares.
Une tonne de terres rares pour construire une éolienne.
800 éoliennes de cette nouvelle génération peuvent remplacer une tranche nucléaire, une tranche de centrale nucléaire, donc ça fait donc 800 tonnes. Ça semble pas énorme, mais les terres rares, on en a pas beaucoup non plus. Donc c'est pas du tout impossible. Mais ça va avoir un coût. C'est-à-dire que ça se fait pas comme ça.
Et ça demande une réflexion
et donc,
en
voilà,
amont.
Il faut donc intégrer l'ensemble. Ce que je veux dire, c'est que même discuter budget carbone, transition énergétique, demande à intégrer aussi cette modeste composante qu'on appelle les ressources minérales.
Oui, cette modeste composante qui est partout, tout le temps, depuis toujours, et encore plus demain qu'aujourd'hui.
Et qui est indispensable, par exemple, dans ce cas-là, pour faire les électroaimants des rotors des éoliennes.
Des éoliennes. Autour de la question, quelles ressources minérales pour demain ? Nous continuons de nous interroger avec vous, Georges Callas, suite dans 3 minutes, juste après le flash d'info. On se retrouve pour chercher justement des pistes durables et équitables, vaste chantier que nous allons explorer ensemble. À tout de suite.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie autour de la question « Quelles ressources minérales pour demain ?» en compagnie du professeur Georges Callas, spécialiste des minéraux, professeur invité cette année au Collège de France sur la chaire « Développement durable, environnement et société » pour animer une réflexion de fond sur les ressources minérales encore accessibles en termes acceptables pour notre planète et ses habitants. Question cruciale qui se pose partout sur tous les continents, au nord et surtout au sud, où la ruée vers l'or, où les terres rares continuent de faire des ravages. Extrait d'un reportage de David Bachet au Mali, sur le site d'orpaillage traditionnel de Koflatier à la frontière du Mali et de la Guinée.
Il y a des trous un peu partout. Les gens sont rouges de terre parce que ce sont ceux-là qui creusent des trous comme ça là. C'est des kilomètres. Vous savez, ici, ce n'est plus possible de cultiver les terres sur lesquelles les miniers ont passé. Il ne sera plus possible de cultiver ces endroits-là. Deuxièmement, tous les arbres sont pratiquement enlevés. Il n'y a plus d'arbres. Même l'élevage, les animaux ne peuvent pas se permettre de venir vers ici. Parce qu'il y a des trous un peu partout. Donc c'est un endroit qui est pratiquement perdu pour l'humanité. La meilleure solution, c'est de planter des arbres. Est-ce qu'on va demander à ces miniers-là de planter des arbres ici? Ouais, autant ne rien dire. Donc ça veut dire qu'il faudrait trouver en tout cas une bonne formule. Sinon, l'environnement quand même est foutu et à jamais.
Au micro de David Bachet, c'était Famori Keita de l'ONG Groupe Action Développement qui vient en aide aux mineurs traditionnels sur le site d'orpaillage de Koflatier au Mali. Ces mines d'or sont des sites de désolation, Georges Callas.
Ben, ce sont des sites de désolation, forcément, puisque c'est exploité, j'allais dire à la main. Donc, en surface, on est sur 1 ou 2 mètres, 3 mètres de profondeur. On a la même situation au Brésil, notamment aussi. Vous allez effectivement enlever toute la végétation et le sol, effectivement, sera extrêmement endommagé. Alors, les impacts sont aussi associés au fait que, comme vous cherchez de l'or, l'or, c'est pratiquement, enfin, c'est rarissime que ce soit des pépites bien visibles, et ce sera effectivement plutôt de la poussière d'or que vous allez récupérer. Vous ne pouvez pas la récupérer comme ça, donc vous allez utiliser l'extrait avec du cyanure, l'extrait avec du mercure, qui est de loin le plus utilisé, parce que les amalgames qui forment permettent effectivement qu'ensuite vous chauffez justement cet amalgame, vous pouvez récupérer l'or et vous laissez partir dans l'atmosphère le mercure.
Dans l'atmosphère et dans c'est empoisonnement environnemental et empoisonnement des hommes qui s'en servent, évidemment, des hommes, des femmes et des enfants.
Donc c'est comme ça qu'effectivement on a en Guyane notamment, toute la chaîne alimentaire a été contaminés en mercure, donc ce sont des choses qui sont très très fortement surveillées, mais c'est pas facile, les frontières sont immenses, on est en pleine forêt, et donc c'est pas facile que la loi soit respectée, hein. Officiellement, effectivement, c'était interdit, mais c'est l'orpaillage qui est sauvage.
Et est-ce qu'il y a moyen de récupérer ces sites? On y reviendra après, vous occupez des questions d'après-midi, mais est-ce qu'on peut récupérer des sites empoisonnés comme ça?
Ce sera effectivement difficile. Alors le mercure va retomber sur, c'est pas tellement uniquement le site, le mercure va contaminer l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire que le mercure, en s'évaporant ensuite, il va se condenser sur les feuilles des arbres, et puis il va retomber un peu plus loin, et puis ensuite toute la chaîne alimentaire va progressivement se trouver contaminée jusqu'aux crevettes de l'embouchure. Donc c'est un peu plus ennuyeux que ça, en fait.
Alors les minéraux sont aussi source de conflits. J'ai envie de vous citer le commentaire d'un de nos auditeurs sur les réseaux sociaux, c'est Gaël Boukassa de Lubumbashi en République démocratique du Congo. Il nous dit, c'est vrai que les ressources minérales sont les bases de notre civilisation industrielle, mais que dire des conséquences qu'engendrent ces ressources? Tant de guerres et de rébellions dans les régions des ressources minérales. Bref, ce qu'il faut dire, c'est que les ressources minérales sont les bases d'une civilisation industrielle d'une part et cause de guerre d'autre part. Il a raison, Gaël.
Oui. Et alors là, on est effectivement dans des débats qui n'ont plus rien à voir avec les minéralogies ou la géologie. Ce que l'on constate...
C'est le minerai de la guerre, le nerf de la guerre.
Oui, c'est le minerai de la guerre. Ce sont les circuits illégaux. C'est-à-dire que même des puissances économiques considérables comme la Chine, pour les terres rares, on évalue à 20-25% les pourcentages illégaux. Ils sont très difficiles évidemment à évaluer, hein, qui échappent donc au contrôle gouvernemental. Donc c'est souvent le cas dans beaucoup de pays. Et donc, il y a des acheteurs qui vont acheter pour moins cher que les cours officiels.
Ah, parce que ce soit le diamant ou les terres rares très précieuses aujourd'hui, ça génère des profits considérables.
Oui, bien sûr. Et donc, vous allez avoir des gens qui vont, en dehors de tous les circuits commerciaux, acheter des minerais, acheter donc des diamants, acheter tout ce qui est valorisable, en fait, hein, qui va donc partir sans payer aucun impôt et de façon très discrète. Dans certains pays, donc je n'ai pas, c'est pas trop ma discipline, donc je ne peux pas évoquer des noms, mais enfin, c'est vrai que je pense à certains noms, et qui permettent ensuite effectivement de fabriquer. Et c'est là où, de toute façon, on est tous impliqués. C'est-à-dire que ça permet à ces pays de proposer des composants un peu moins chers, qui vont se retrouver, bah, encore une fois, dans tous les objets de technologie que l'on utilise.
C'est ça, parce que ces terres rares sont quoi? C'est des minéraux particuliers qu'on utilise en très petites quantités.
Ce sont des métaux. Donc, c'est 14 métaux qui vont effectivement entrer, qui ont des propriétés, notamment magnétiques, très très spécifiques, et qui vont donc rentrer dans des composants qui sont indispensables aux nouvelles technologies en toute petite quantité. C'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, il suffit parfois d'un ou deux composants et ils feront peut-être 1 mm3. Hein, c'est beaucoup moins, même, parfois.
Et il se trouve où, ces terres rares? On va revenir sur la Chine. En Chine, il y en a?
Oui. Alors, la Chine est le principal producteur actuellement, puisqu'ils ont plus de 95%, ils produisent plus de 95% de terres rares, mais des gisements de terres rares, il y en a. Dans d'autres endroits dans le monde, ils n'ont pas l'exclusivité des gisements, contrairement par exemple aux platines ou au palladium et à ce type de métaux précieux dans lesquels l'Afrique du Sud a le monopole, pas le monopole, c'est, j'exagère, mais bon, va produire 80%, 90% de la population mondiale, mais en ayant les réserves, en ayant 95% du potentiel mondial en réserve.
Ça, c'est pour le platine en
Afrique
du Sud.
Oui, pour le futur. Alors que les terres rares sont plus distribuées. Donc ce qui s'est passé, c'est que les terres rares n'évoquaient pas beaucoup d'intérêt de la part des pays, et donc on a laissé tranquillement les Chinois. C'est très très joli comme histoire justement économique, où on voit tranquillement au fur et à mesure que les années passaient, la Chine qui voyait sa production augmenter, les États-Unis ont abandonné dans les années, à la fin des années 90 par exemple, la production des terres rares,
parce qu'ils en avaient aussi, mais ils n'exploitaient pas,
parce qu'il y avait des problèmes environnementaux, notamment parce que ces terres rares sont toujours associées à du thorium et de l'uranium, donc il faut les traiter pour justement retirer ces éléments radioactifs, ce qu'on sait faire, hein. Le problème après, c'est que vous avez des déchets radioactifs qui contiennent l'uranium et le thorium, donc on sait faire aussi, mais bon, faut rajouter du coup au prix. Et si le prix des terres rares n'est pas suffisant, ben l'industrie libre, écoutez, moi, de toute façon, je ne peux pas faire tourner ma mine, donc on arrête.
Question économique, toujours autour de la question, quelles ressources minérales, ou plutôt quelles terres rares, hein, justement, pour demain et dans quelles conditions acceptables pour la planète et ses habitants, je vous propose d'aller voir en Chine, justement, ce qu'il faudrait peut-être ne pas faire ou plus faire, extrait d'un reportage de Stéphane Lagarde dans le désert de Mongolie extérieure. Il était parti à la rencontre des hommes et des femmes des terres rares dans un village cerné par les usines et par un lac devenu tout blanc.
Il y a des dizaines d'entreprises de terres rares juste à côté de ce village. Ça rapporte à la région, aux fonctionnaires du gouvernement. Mais à nous, ça n'a pas profité. Même les paysans n'arrivent pas à obtenir des compensations.
C'est donc ça.
Sur cette route, il n'y a que des usines de terres rares. Là, à gauche, à droite, devant nous, il n'y a que ça.
Et on se dirige maintenant vers le sud de ce village. Monsieur Zhang, là, qui montre du doigt tout ce qu'il y a autour de nous, il n'arrête plus, hein, puisqu'il n'y a que ça, des usines, et encore des usines.
Et là, on approche Weikangba, le lac de terres rares. Il y a des médias qui l'appellent le lac de terres rares, parce qu'il y a des usines de terres rares qui ont mis des déchets dedans.
Et là, on est dans un paysage extraterrestre, hein, on est sur la Lune. Ces grandes usines de terres rares derrière nous, et on marche au milieu d'un no man's land, des tuyaux en fer crevés, des herbes desséchées, jaunes.
L'année dernière, deux petites filles sont tombées dans le lac. C'est très pollué, vous allez voir.
On voit un immense lac devant nous, effectivement. Enfin, un lac, c'est difficile à dire. Hein. Il y a de l'eau, effectivement. Et au milieu d'un cratère, quoi.
Les tuyaux sont ceux de l'usine de terres rares derrière nous. Ils se déversent directement dans le lac. Les gros conduits, en revanche, viennent de l'usine d'acier.
Et on voit, c'est de l'eau blanche et un liquide très aqueux qui descend dans ce lac. Et ça sent pas très bon. Je peux dire les choses.
Il n'y a plus de poissons, il n'y a plus d'algues, il n'y a plus rien de vivant dans ce lac.
Le chauffeur qui nous a amenés ici nous a dit de ne pas rester longtemps, hein, c'est ça ? Il ne faut pas traîner ? Parce que les gens de l'usine vont arriver ?
Bien sûr qu'ils vont arriver, ils ne veulent pas qu'on voit ça. L'année dernière, il y a des agents de contrôle qui sont venus faire des inspections. L'usine a dû fermer, mais en réalité, ils continuaient à travailler pendant la nuit.
C'est vraiment, encore une fois, très impressionnant de voir ce lac complètement pollué, blanc presque, hein, avec des fumées qui s'en échappent, de la tourbe au milieu, des marais, et tout autour, donc, ces tuyaux, ces gros tuyaux venus des usines alentour. Allez, on y va.
Extrait du reportage tourné en 2011, hein, tout de même par Stéphane Lagarde, donc en Chine, dans le désert de Mongolie extérieure. Depuis, on peut peut-être espérer que les choses changent un peu, Georges Calas.
Il faudrait l'espérer. Le problème est assez général. Il n'est pas du tout propre aux ressources minérales. Hein. C'est le problème de toutes les matières premières au sens large. C'est que l'exigence environnementale a un coût. Donc si vous voulez effectivement remettre dans l'environnement de l'eau polluée, il faut évidemment la traiter. On sait traiter.
Mais ça a un coût.
Et donc du coup, c'est un peu plus cher à la sortie. Donc si vous êtes en compétition avec d'autres fournisseurs, c'est vrai que si on n'est pas regardant, eh bien voilà, donc on laissera des exploitations qui font n'importe quoi, si on peut quand même le dire, hein, qui ont fait n'importe quoi. Le gouvernement chinois est en train d'essayer de reprendre la main, mais c'est vraiment difficile vu la taille, hein, vu le nombre d'exploitations qu'il y a et leur aspect assez dispersé. Et donc ça a un coût par rapport à d'autres productions. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, les terres rares dans les pays non chinois, les exploitations s'étaient éteintes parce que on ne peut pas accepter ça. Vous voyez pas ça dans un pays occidental, effectivement.
Mais en fait, on a l'impression quand même que tout est une question de coût, évidemment, économique. Oui. Parce qu'au fond, on sait faire aujourd'hui, on saurait faire pour ne pas polluer l'environnement, pour que les mineurs ou ceux qui les extraient puissent travailler dans des conditions acceptables et en profiter aussi. On saurait faire.
Donc si on payait à son juste prix, cette ressource, hein, oui, tout à fait.
Donc au fond, il s'agit peut-être de questions économiques, parce que dans ce colloque hein, que vous avez, qui est un peu conclu cette année au Collège de France, il y a des pistes.
Oui. Donc effectivement, il faudrait pouvoir, par exemple, on sait marquer même les provenances de métaux critiques, par exemple. On sait analyser.
Métaux critiques, terres rares, c'est la même chose.
C'est pas vraiment la même chose, mais ils sont dedans, effectivement, oui. Les terres rares, ils sont dedans, et donc on saurait retrouver la provenance justement de ces métaux critiques, hein, par des éléments traces qui sont associés. Évidemment, ça a un coût aussi. Donc, ça rejoint les métaux de la guerre, ça rejoint ce type de préoccupation, de tracer, justement, d'avoir une traçabilité de la matière première.
Mais c'est une question de choix, enfin. Vous, chercheurs, quand vous réunissez, vous dites on a les moyens. Et vous réfléchissez là-dessus. Je crois qu'il y avait Alain Rolla qui a participé à ce colloque. Comment satisfaire les besoins en métaux critiques en terres rares? Ce serait possible. On pourrait satisfaire nos besoins sans cesse grandissants, parce qu'il y a ça quand même.
Alors, pour ça, il faut reprendre effectivement l'exploration. Donc, on a des bonnes indications de nouveaux types de gisements. C'est un petit peu la caractéristique des ressources minérales, c'est qu'effectivement, comme pour d'autres ressources, notamment les hydrocarbures, il y a une recherche permanente de nouveaux types, de nouveaux gisements, parfois qui se forment dans des conditions que l'on connaît mal, parce qu'avant ça semblait très marginal, et puis en regardant de près, on se rend compte que au cours actuel de ces métaux, c'est pas parce qu'on est plus intelligent maintenant qu'avant, mais au cours actuel de ces métaux, eh bien ça pourrait donner des gisements qui pourraient être exploités. Donc après il faut.
Et en même temps, l'utilité de chercheurs comme vous, c'est effectivement de comprendre comment ils se forment, donc où ils peuvent se former et d'aider à en trouver d'autres. C'est ça quand même.
Donc de comprendre les mécanismes de formation, comment vous allez rassembler votre troupeau de moutons en fait. Ces éléments chimiques se trouvent dispersés dans la terre.
C'est sur votre troupeau de moutons, on sait.
Et puis voilà, on veut qu'un métal, quel qu'il soit en fait, hein, on ne veut pas qu'il soit dilué, on veut qu'il soit concentré. Donc il faut effectivement qu'il y ait ces mécanismes qui jouent, et c'est effectivement toujours l'émerveillement du géologue, hein, de voir comment, en faisant les bonnes fractures, les bonnes failles, qui font circuler les bons fluides à la bonne température, avec les bons complexes qui transportent les éléments, vous allez rassembler comme ça petit à petit, dans un endroit du monde, vous allez mettre des quantités inimaginables de métaux, parfois avec un facteur de concentration supérieur à 1000, hein, c'est-à-dire vous le concentrez 1000 fois de façon totalement naturelle, hein, donc vous le concentrez 1000 fois plus que ce qu'il est présent sur Terre.
Et ça, vous arrivez à le trouver
Oui, donc ça, c'est très très bon.
Où vous en avez trouvé?
Moi, j'en ai jamais trouvé, mais je...
Enfin, où vous donnez des pistes, plutôt, pour en trouver.
Il y a eu un gisement qui s'appelle Olympic Dam, qui est dans le sud de l'Australie, et qui correspond à ça, justement, un type de modèle de gisement que l'on ne connaissait pas, et qui est le plus grand gisement actuellement d'uranium, un des plus grands gisements de cuivre, mais il a aussi des métaux précieux. Enfin, c'est hallucinant tout ce qu'il a comme... tout ce qu'il recèle, comme métaux, dans un environnement qu'on ne pensait pas être intéressant a priori.
Autour de la question, quelles ressources minérales pour demain? Donc il y en a encore, hein. Quelles ressources pour nous humains? On va chercher en musique, pas du côté de l'Australie, mais entre Pays Basque et Terre Nubienne. Anne Etchegoyan, and the Nubians, sur RFI, nos terres.
T'es-tu jamais un jour imaginé ailleurs, veiller des nuits et rêver à des jours meilleurs? C'est ici
Goyenne sur RFI, autour de la question quelles ressources minérales sur nos terres, hein, pour demain. Nous sommes en compagnie du professeur Georges Callas, titulaire cette année de la chaire Développement durable, environnement et société au Collège de France. Vous avez d'ailleurs mené une réflexion sur la gestion de l'après-mine, Georges Callas. Je vous propose à ce sujet un dernier éclairage, c'est celui de Didier Gay. Il est ingénieur à l'IRSN, l'Institut de Sûreté Nucléaire. Il travaille sur la question des déchets radioactifs qui proviennent aussi d'anciennes mines d'uranium en France, notamment, on l'écoute.
La perspective française, c'est plutôt celle de l'après-mine, puisqu'on a aujourd'hui pratiquement plus d'exploitation minérale en cours en France. Par contre, on a eu dans l'histoire du pays des phases d'exploitation assez intenses, c'est le cas pour l'uranium. Pendant près de 50 ans, on a exploité de l'uranium en France, dans pas mal de régions, et donc on s'intéresse à ce qu'on peut appeler les séquelles environnementales. Comment un environnement perturbé par une exploitation minière est capable de résorber la perturbation qu'il a subie. Comment les environnements présents sur place sont capables de se restaurer et comment des activités humaines peuvent venir réinvestir les territoires qui ont été laissés par l'activité minière.
Il y a des pistes précisément autour de l'uranium ou d'autres?
Alors il y a des constatations à faire déjà, puisqu'il y a pas mal de sites qui existent en France sur lesquels cette évolution a eu lieu, on peut l'observer, et puis il y a un certain nombre de cas où on identifie des choses qui sont des problèmes, donc des problèmes de compatibilité entre les usages que les hommes veulent redévelopper et l'état de contamination qui persiste. Donc c'est un des aspects qui fait l'objet d'intérêt aujourd'hui, alors qui peut impliquer des réaménagements complémentaires, ou qui peut entraîner des gestions du type restriction d'usage d'un certain nombre de lieux. Donc il y a le cas des environnements perturbés, et puis il y a une question associée qui est celle de la gestion des déchets, sur laquelle on retombe, puisque l'exploitation minière a ça de particulier, c'est qu'elle entraîne une mobilisation de volumes extrêmement importants de matériaux. Une partie de ces matériaux sont traités. Après les traitements, ils produisent des résidus. Ces résidus constituent là aussi des volumes extrêmement importants. Il y a assez peu d'équivalents lorsque l'on parle de déchets. Les volumes les plus importants, en tout cas dans le domaine des substances radioactives, ce sont les déchets issus de l'exploitation minière. Et ces déchets-là, on les a la plupart du temps, dans la quasi-totalité des cas, laissés à proximité des sites d'exploitation. Et il faut gérer leur présence sur ces sites-là, non seulement aujourd'hui, mais en pensant à demain. Ça, c'est un sujet extrêmement compliqué, d'autant plus compliqué qu'on a affaire à des situations en surface. Et donc, ces sites-là seront soumis à des aléas naturels, et à toutes les agressions d'origine météorologique, mais aussi au passage des hommes, à leur volonté d'investir les territoires, d'y aménager éventuellement des villes, en tout cas des usages de divers types. Donc, comment fait-on pour penser ce futur-là, et comment peut-on aujourd'hui essayer d'en anticiper les conséquences?
Comment gérer l'après-mine, Georges Callas?
Oui, alors l'après-mine, c'est effectivement une question qui devient importante, en tout cas qui auquel les scientifiques, évidemment le public, sont de plus en plus sensibilisés. Alors ils sont sensibilisés parce que les mines sont souvent ce qu'on appelle des bombes à retardement, c'est-à-dire que ce n'est pas au moment de l'exploitation que c'est dangereux, ça va être des années, voire des dizaines d'années après.
Donc, mais c'est les terrains qui sont minés, en fait. Hein.
Oui, on peut dire ça. Donc dans le cas effectivement de l'uranium, l'énorme avantage que l'on a en termes, et c'est pour ça que la gestion des anciennes mines d'uranium est très intéressante environnementalement parlant et qu'elle doit être exemplaire, c'est parce qu'en fait, grâce à la radioactivité, on va pouvoir tracer avec une immense précision les trajets de ces éléments dans la biosphère, dans la zoosphère.
On peut mesurer leur niveau, mesurer le taux de radioactivité.
C'est des sensibilités que le chimiste ne sait pas faire. C'est-à-dire qu'un becquerel, c'est une désintégration d'un atome par seconde. Un atome, il y a beaucoup d'atomes dans un gramme de matière. Donc on a des sensibilités qui sont absolument fabuleuses. Et l'autre intérêt, c'est que la cité, la société, peut s'accaparer cette information, c'est-à-dire que n'importe qui peut acheter ces détecteurs, qui ne sont pas très compliqués à utiliser,
et peut mesurer,
mesurer chez lui, autour de lui. Et effectivement, c'est donc pour nous extrêmement intéressant, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui vont pouvoir en être retirées. Alors, ceci dit, les dangers en France ne sont pas forcément là. Moi, je pense surtout notamment à l'arsenic, qu'on va retrouver en déchets d'anciennes mines. Par exemple, l'ancienne mine d'or de Salsigne, qui était la plus grande mine d'or européenne jusqu'à il y a 20 ans, se situe au nord de Carcassonne, hein, et vous avez donc des terrains qui sont contaminés
à
l'arsenic. Et il y a, donc jusqu'à l'an dernier, il faudra voir cette année, mais depuis 1997, il y a une interdiction de récolter les végétaux racines, les végétaux feuilles, de récolter les herbes sauvages comme le thym, de récolter les escargots. Interdiction de mise sur le marché, je ne connais pas d'exemple comme ça sur le territoire national.
Donc il faut avoir de la mémoire aussi, il faut avoir la mémoire de ces mines.
Il faut avoir la mémoire, tout à fait, il faut avoir la mémoire, et il faut avoir, dans ce cas-là, donc pour l'arsenic, pour le cadmium, on pourrait citer des exemples, par exemple sur la Garonne, où on a eu aussi des interdictions de mise sur le marché, c'est-à-dire où les pouvoirs publics sont conscients, comme ils disent qu'on ne peut plus assurer la sécurité des populations, c'est pour ça qu'on prend des mesures strictes, hein, qui sont quand même assez exceptionnelles, et là, en revanche, le citoyen ne peut pas s'accaparer cette information, parce que, on est quand même...
Oui, l'arsenic, ça se mesure pas comme ça.
Ah ben, ça se mesure pas, non, c'est les cadmium non plus, le sélénium non plus, donc effectivement, ce sont des bureaux d'études qui vont le faire.
Donc là, il faut faire confiance au bureau d'études et à ses gouvernements. Il faut qu'il y en ait.
L'agence, l'ADEME, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, donc l'IRSN, évidemment, lui, va contrôler pour la partie radioactive, mais pour ces métaux lourds, ce sont plutôt ces deux autres agences que j'ai mentionnées. Donc là, on est effectivement sur des informations qui sont plus difficiles donc à généraliser, et donc elles sont moins nombreuses que dans le cas de la
radioactivité. Mais on peut gérer l'après-midi. mines. Et on peut aujourd'hui, hein, autour de la question comment faire, est-ce qu'il y aura assez de ressources minérales, naturelles, on peut aussi aujourd'hui recycler.
Oui, alors ce ça c'est l'autre aspect.
C'est
oui,
ça,
oui,
hein.
Oui, donc l'autre aspect, donc le recyclage est actuellement donc une réalité pour beaucoup de matières
premières. Vous parlez des mines urbaines.
Alors il y a la mine urbaine, il y a les ressources minières.
La mine urbaine, c'est quand on recycle.
Oui, c'est de concevoir effectivement qu'une ville peut avoir son existence propre et donc on va pouvoir effectivement avoir des circuits de recyclage logiques pour une partie déchets qui sont générés par le fonctionnement de la
ville. Et donc récupérer le minerai oui, est nécessaire.
De récupérer donc ce qui va pouvoir servir de matière première pour être réinjecté dans les circuits de consommation. Ce que tout le monde connaît, donc nos auditeurs connaissent par exemple le recyclage du verre. Actuellement, on est en moyenne à 70% en Europe. Bon, il y a des bons élèves et des mauvais élèves, donc on va pas rentrer dans les détails. Mais effectivement, ce verre recyclé va rentrer comme matière première, va être ensuite incorporé plutôt comme matière première pour faire de nouvelles bouteilles. Alors on a, comme toujours, c'est pareil pour les papiers. Donc on va récupérer dans le papier plutôt la cellulose, par exemple, dans ce cas-là, qui est la matière qui coûte cher. Évidemment, il y a une dégradation. Lorsque vous faites un recyclage, vous avez une dégradation de cette ressource. Mais d'un autre côté, on économise beaucoup d'énergie. Évidemment, on ne va pas aller chercher du sable dans les rivières, on ne va pas chercher des fondants. Et donc, évidemment, il n'y aura pas de CO2 qui sera dégagé parce qu'on a des carbonates qui sont chauffés, qui se décarbonatent quand on chauffe. Donc,
et donc, on pourrait imaginer la même chose pour les terres rares dont on parlait.
Alors, les terres rares, alors, ce qu'on sait faire, pour parler très brièvement, il y a des métaux de base que l'on sait recycler, que l'on recyclera forcément. C'est-à-dire que là, actuellement, on est à, en gros, 40%, 45% de taux de recyclage pour le cuivre, pour l'aluminium, donc ça on sait faire. En revanche, pour les terres rares, à partir du moment où vous les trouvez mélangées avec beaucoup de composants, il va falloir imaginer le circuit global de fabrication, c'est à l'élaboration du matériau qu'il faut trouver la façon de déconstruire et non pas de démolir, je dirais.
Pour déconstruire. Dès la conception, de façon à pouvoir trouver.
Oui, alors c'est pas du tout mon job, mais oui, pour des gens en sciences de l'ingénieur, bien sûr, ce serait passionnant de dire effectivement si on peut concevoir des produits qui sont recyclables, donc et éco-consommables, je dirais, de façon à pouvoir à l'échelle industrielle, avoir les milliards de téléphones portables qui vont exister sur Terre, on peut pas.
Piste à suivre, piste de recherche. Merci infiniment, Georges Calas, d'être venu en direct nous faire partager toutes ces pistes de recherche et toutes ces interrogations aussi. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent vous retrouver en ligne, votre leçon inaugurale et tous les cours du Collège de France sont sur Internet. Voilà. Et le lien est bien sûr sur notre page. Merci à vous, Georges Calas. Rendez-vous demain, amis auditeurs, pour nous poser toujours d'autres questions avec Guillaume Ploquin à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses, avec Anissa Nabi aujourd'hui. Merci de votre curiosité à tous, merci de votre interactivité, surtout gardez l'esprit libre et ouvert. Dans quelques instants, un nouveau journal sur RFI.